thématique qui fait partie d'une série que je suis en train de développer avec l'Église de plein palais, chez nous à Genève. La guérison de l'âme, les blessures de l'âme. Parce que je me suis rendu compte, le Seigneur m'a montré qu'autour de moi, il y a énormément de gens blessés. Pourquoi les gens sont-ils comme ils sont? Vous vous posez aussi des fois cette question. Pourquoi il y a tant d'agressivité, tant de négativisme et tout cela? Les gens sont blessés. Nous sommes blessés. Moi aussi j'en fais partie. Les blessures de l'âme sont souvent beaucoup plus compliquées que les blessures physiques. Une gifle, par exemple, elle te fait mal pendant 5 minutes. Mais après, elle peut brûler durant des années dans ton âme. Dans mon adolescence, mon père m'a donné une fois une grosse gifle. Il m'a humilié. Je l'ai haï. Je l'ai haï pour ça. Et notre relation a vraiment pris un coup. Elle s'est détériorée. Aujourd'hui, je suis en paix avec mon père. On rigole de nouveau ensemble. Et je dis même que mon père est un excellent éducateur. Il a fait des erreurs, tout comme moi j'en fais aussi. C'est important de comprendre que nous sommes tous blessés, probablement aussi d'une manière ou d'une autre, intérieurement, dans notre âme, mais nous avons aussi blessé d'autres. Je prie pour que ce message puisse te toucher, que ce message soit salutaire et que ce message nous fasse rencontrer surtout le médecin, le Seigneur, le médecin par excellence. J'ai structuré ce message de façon suivante. Tout d'abord, je voudrais faire une introduction un peu générale. Je voudrais aborder avec vous les différents types de blessures, des blessures émotionnelles, des blessures psychiques, parce que avant de parler de guérison, rendons-nous compte qu'est-ce qui peut nous arriver, qu'est-ce qui est en nous, qu'est-ce qui nous blesse, qu'est-ce qui est à travers. Alors cette introduction, elle prendra un peu de temps, ne soyez pas surpris. Et après cela, je voudrais vous parler du Dieu médecin. Et je prendrai un exemple biblique pour cela, je prendrai une histoire biblique. Voilà un peu le plan. On y va avec ça? Ok, amen. Tout d'abord, donc, la guérison de l'âme, j'ai essayé de catégoriser un tout petit peu qu'est-ce qui existe là, qu'est-ce qui pourrait se faire, et c'est un petit schéma que j'ai établi. Il y a des petites blessures, ce que j'appelle une entorse. Mais si vous faites une entorse au pied, ben normalement ça guérit tout seul. Il faut juste que ça passe. Il faut prendre soin, peut-être on fait un bandage, mais ça passe. Les guérisons de les petites blessures de l'âme, ça pourrait être une parole blessante que quelqu'un ou une réflexion négative qui t'affecte. Ça peut être aussi une déception amoureuse, des personnes qui vraiment espéraient. Maintenant, j'ai rencontré l'âme sœur, j'ai trouvé le partenaire, on était peut-être vraiment déjà projeté dans quelque chose, et puis c'est la rupture, ce n'est rien, ça n'a pas fonctionné, c'est une blessure, d'accord? Mais ce ne sont pas des blessures insurmontables, et ce sont des blessures qui arrivent, et voilà, j'appelle ça des entorses. Après, il y a des blessures profondes. Peut-être je vais avancer comme ça, voilà. Ensuite, je vais parler vite fait des maladies psychiques, les obsessions, les addictions, et puis la possession démoniaque, spirituelle. C'est un peu le plan, voilà, les paroles blessantes, dans les déceptions, les accrochages, le refus, c'est des choses qui arrivent. Ce sont des petites blessures. On peut les surmonter. On n'a pas besoin d'aller voir un psy pour ça. Puis il y a des blessures profondes. Par exemple, un abandon. Un enfant qui a été abandonné par ses parents ou qui a été souvent abandonné, il porte en lui-même cette blessure et cette peur d'être à nouveau abandonné. Les différentes formes d'abus de pouvoir constituent une blessure grave. Peut-être un parent peut a pu abuser de pouvoir, ou un pasteur peut abuser de pouvoir, ou ton chef abuse de toi parce qu'il est dans une situation et dans une position supérieure par rapport à toi, et tu subis cela, et ça laisse une profonde blessure. Puis je parlerai vite fait aussi des traumatismes, des différents traumatismes, comme par exemple un accident de voiture. Un ami à moi a fait un accident de voiture dans sa jeunesse, et puis la voiture a fait plusieurs tonneaux, et durant des années, à chaque fois quand il était avec moi en voiture, il était comme hanté par cet accident. Il avait peur qu'on puisse de nouveau déraper. Il a dit « doucement, 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 roule doucement ». Un traumatisme, un divorce, une fausse couche, un viol. Des gens qui doivent fuir, qui ont connu des guerres. Des amis à moi en Afrique ont dû quitter le pays d'un instant à l'autre. Guerre civile. On les a appelés, l'ambassade les appelle, leur dit, vous avez une heure pour faire votre valise, une valise pour la famille. Et un blindé de l'armée française est venu les récupérer pour les amener à l'aéroport. Ils étaient arrachés d'un instant à l'autre. Et ainsi, il y a des personnes aussi qui ont été arrachées, qui ont subi un déracinement. Ça peut être aussi professionnel, ça peut aussi être un déracinement, oui, un déménagement très mal vécu, par exemple lors de l'adolescence. On est déraciné, on est ou aussi aller dans une autre culture. On ne comprend pas la langue, on doit tout réapprendre. Ce sont des blessures. Après, je dirais, une blessure non traitée, une blessure profonde qui n'est pas traitée, elle peut s'infecter, elle peut... un cœur brisé qui souffre de besoin de consolation, de réconfort, si cette blessure n'est pas traitée, et si on le couvre juste du manteau du silence, cette blessure peut devenir une maladie psychique, une pathologie, ça peut devenir chronique. Et puis là, on pourrait parler de dépression, de phobie. Je pense qu'un grand nombre de ces dépressions et de ces maladies psychiques qu'on a de nos jours, ce sont tout simplement, c'est la prolongation des blessures de l'âme qui ne sont pas traitées. La schizophrénie, les troubles du sommeil, j'en passe. Je ne suis pas psychiatre, je ne vais pas m'aventurer plus là-dedans. Après, j'ai encore voulu parler des addictions, des obsessions. C'est une autre catégorie de blessures. Quand on regarde certaines obsessions ou addictions, on se rend compte que ce sont des expressions physiques d'un mal-être plus profond. N'est-ce pas? Par exemple, prenons le cas ici de quelqu'un qui a un esprit de contrôle. Pourquoi? Pourquoi tu es obsédé de toujours devoir contrôler les autres? Si tu es chef d'entreprise, par exemple, et tu as un esprit de contrôle, ça a un effet néfaste sur l'ambiance au travail, sur tes collaborateurs. Mais pourquoi cette personne le fait? C'est juste une expression la partie visible de l'iceberg, mais en dessous, il y a quelque chose d'autre, il y a une souffrance, un manque, une blessure. Ou prenons le cas de l'anorexie ou de la boulimie. Ce sont des maladies nutritionnelles, des souffrances, certes, mais ce sont justement aussi des expressions physiques de quelque chose de plus important, de ce qui ne va pas dans l'âme. Puis encore la possession, qui est d'ordre spirituel. Il y a des personnes qui commencent à toucher à la magie, qui commencent à jouer avec l'occultisme. Pourquoi ils le font? Souvent, ils vont te dire, je cherche le bonheur. Je cherche à avoir un plan pour ma vie, je suis perdu. Je cherche à me connecter au monde des esprits. Pas pour devenir dépendant de cela, mais pour juste trouver ma voie et pour en quête de bonheur, en fait. Et puis, tout d'un coup, ils se retrouvent dans les griffes du mal et des ténèbres. On pourrait parler, de la magie, de la sorcellerie, des personnes qui ont peut-être connu cela aussi de façon héréditaire, la malédiction générationnelle, des grands-parents qui ont exercé, qui ont été médiums, etc., et qui ont, ou des paroles, des malédictions qui ont été prononcées, et ça te poursuit, ça reste là, c'est gravé dans l'histoire familiale, un peu aussi comme Dieu le dit dans Exode chapitre 20, les 10 commandements, ceux qui m'aiment, bénis jusqu'à 1000 générations, ceux qui se prosternent devant les autres dieux, ils seront maudits jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Il y a des malédictions qui sont générationnelles. Et si tu es là-dedans, c'est une énorme souffrance, parfois sans même te rendre compte. Et c'est bien de faire le ménage, c'est bien de prendre conscience de ces choses. Ah oui, j'ai encore un petit excursus là-dedans par rapport à la possession, parce que parfois dans nos milieux, on distingue peut-être pas suffisamment et on dit voilà, la personne, elle est possédée, ou il y a là, la Bible emploie souvent le terme démoniaque. J'ai fait une petite recherche là-dessus et c'est intéressant, les évangiles utilisent plus souvent le verbe daimonitomai, ce qui veut dire être démonisé ou être terrorisé par un démon. Très souvent, on trouve cette formulation, et c'est intéressant. Est-ce que vous pensez qu'un chrétien puisse être démonisé? Est-ce qu'un chrétien peut être terrorisé par un démon? Moi, je pense que oui. Je pense que Satan peut nous attaquer, Satan peut essayer de nous déstabiliser avec toutes les armes dont il dispose. Mais est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Ça, je ne pense pas, parce que possédé veut vraiment dire que la voie vers Dieu est obstruée. Il y a vraiment là quelqu'un qui possède et qui exerce son pouvoir. Mais un chrétien, il a donné sa vie au Seigneur Jésus. Jésus est Seigneur. Alors, ce n'est pas un autre qui puisse être le Seigneur. Jésus a dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Donc c'est intéressant de nuancer dans cela. Oui, Segond a traduit en fait ce verbe daimonitomai par démoniaque, qui est un adjectif. C'est-à-dire, c'est comme une étiquette qu'on colle à posséder, démoniaque, il a un démon. Mais c'est pas aussi clair toujours. Plus rarement, on trouve dans le Nouveau Testament la formulation « avoir un démon », ce qui est beaucoup plus fort. Et ça se trouve justement dans quelques textes comme dans Marc 1, verset 23, il se trouvait un homme dans la synagogue, un homme possédé d'un esprit impur. Là, on a un cas d'une possession parce que cet homme, il va crier ouvertement, « Jésus, que viens-tu faire ici ? Va-t'en !» Il y a une opposition claire et apparente. Ou aussi dans Luc chapitre 8, verset 27, où on a cet homme qui se retrouve dans les grottes et qui est vraiment lié avec des chaînes et il les rompt. Et Jésus, il va envoyer ces démons qui sont légions, il va les envoyer dans les pourceaux. Vous connaissez peut-être cette histoire. Là, il y a une vraie possession. Cet homme n'est plus libre. Nous devons distinguer, je vous raconte cela juste pour qu'on puisse être sensible et savoir que un chrétien peut être terrorisé par un démon. Nous sommes parfois partiellement libres. Mais il y a des personnes qui sont à tel point sous l'emprise d'un démon qu'ils ne sont plus libres du tout. Ils ne font plus ce qu'ils veulent. Voilà. J'ai beaucoup aimé cet enseignement de Charles Craft. Je n'aime pas tous les enseignements de Charles Craft. Je voudrais le préciser. Mais il compare les démons aux rats. Mais les rats, ils aiment se proliférer là où il y a de la poubelle, là où traînent les déchets. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi pour notre vie spirituelle? Mais tu peux chasser le démon 10 fois, mais si tu n'enlèves pas les ordures, si tu ne traites pas à la racine pour enlever les ordures, les démons ne partiront pas. C'est pour cela que des fois, c'est un peu plus long et ça prend parfois du temps d'enlever toutes ces ordures qui se sont accumulées dans notre vie. Amen. Seigneur nous aide. Je voudrais montrer vite fait aussi ces différents accès parce que vous retrouvez ici, voilà, les petites blessures, les blessures profondes, les maladies psychiques, c'est 5. Je vous montre ces 5 domaines, en fait, parce que, ouais, ça rend visible un thème qui est complexe. Je ne dis pas que c'est la seule ou l'unique ou la meilleure manière de présenter les blessures de l'âme. Mais moi, dans ma démarche, il m'a fallu rendre visible la chose pour qu'on puisse être dans le concret et savoir de quoi on parle. J'ai simplement essayé de visualiser un peu ces blessures de l'âme. Et sur cette image, on voit que l'un peut aussi aller dans l'autre. L'un peut dépendre de l'autre. Peut-être tu te reconnais aussi, toi-même, dans l'une ou l'autre de ces choses. Peut-être tu as été blessé et tu commences à te rendre compte, ou c'est peut-être un rappel parce que tu le sais au fond, je suis blessé. Il y a des choses qui sont là, qui ne sont pas traitées. Il y a des non-dits, il y a des choses lourdes dans ma vie. Mais ce matin, je ne voudrais pas qu'on soit là juste à contempler les blessures et à faire autour des blessures et de tous ces problèmes. Le but n'est pas d'étudier les blessures. Ce qui nous intéresse, c'est la guérison. Or, qui peut nous guérir? Qui connaît ton intérieur? Qui est celui qui t'a tissé dans le ventre de ta mère? Qui est le médecin par excellence? J'aimerais vous parler de Jésus-Christ et de son amour. Nos blessures émotionnelles, spirituelles, nos déceptions, nos maladies, il les connaît. Il te connaît de l'intérieur et de l'extérieur. Maintenant, il est évident que il me paraît évident que ces différentes blessures émotionnelles, psychiques, nécessitent un accès différent. C'est parfois trop simple de dire, ou à notre façon, des fois, quand j'entends des chrétiens, comment ils donnent des conseils vite fait, disent, il faut que tu pries. T'as un problème, il faut prier. Il faut pardonner. Voilà, on donne des recettes simples, mais dans la Bible, par rapport à ces blessures, j'ai trouvé différents accès. On ne peut pas traiter chaque blessure avec le même médicament. Amen. C'est important de le comprendre et que le Seigneur nous apprenne aussi à être des thérapeutes, les uns pour les autres, à sa manière, comme lui, il a exercé ce ministère de thérapeute, que nous puissions aussi l'apprendre et être des portes, des personnes qui apportent la guérison et la pacification à tous ceux qui souffrent. Voilà, c'est pour cela que je voudrais vous montrer cela. Pour les petites blessures, effectivement, je pense qu'il y a une solution simple. Je vous ai dit, la petite blessure, c'est que quelqu'un vous offense. C'est une parole blessante. Ben alors, tu peux dire, cette personne, elle est méchante. Je ne vais plus lui parler. Ou tu peux changer d'église à cause d'une telle personne. Elle m'a blessé. Je ne parle plus avec cette personne. Mais le Seigneur nous dira plutôt, pardonne. Pardonnez-vous mutuellement, comme Christ vous a pardonné. Les petites blessures, voilà, c'est important de pardonner. Pour les blessures profondes, je ne suis pas certain qu'on puisse dire à une personne qui a subi un viol, par exemple, « Oh, écoute, voilà, c'est arrivé, il faut que tu pardonnes. » Je ne suis pas sûr. Je pense que le pardon va être un jalon dans cette histoire, mais ça ne peut pas être toute la guérison. Il y a là d'autres démarches. Le Seigneur Jésus lui-même, quand il est venu, il a prêché à Nazareth. Le premier jour, on peut dire, de son ministère, il a dit, « L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, il m'a oint pour apporter la guérison à ceux qui ont le cœur brisé. » Pour appeler à la liberté ceux qui sont oppressés. C'était ça le message de Jésus. Il a dit, « Je suis venu pour apporter une libération. » Aussi dans Jean chapitre 4, 16, on voit Jésus avec cette femme samaritaine et dans la discussion, il lui dit, « Va et appelle ton mari. » Et il met, d'une manière très douce, très, très sensible, il met le doigt sur quelque chose qui ne va pas. La femme, elle dit, « Mais je n'ai pas de mari. » Et là, Jésus va lui dire, « Tu dis vrai. » Parce que tu as eu 5 maris et celui avec qui tu es, il n'est pas ton mari. Mais il ne le dit pas d'une façon jugeante. Il le dit d'une façon comme parle un médecin. Si tu veux, on peut en parler. Et la femme lui dit, tu es un prophète. Je vois que tu es un prophète. Je vois que Dieu te révèle des choses cachées. La blessure profonde, puis la maladie psychique. Je suis toujours touché de lire aussi parfois la Bible, le Nouveau Testament dans l'original grec, parce que parfois nous lisons tout simplement guérir ou le mot apporter le salut, mais il y a beaucoup aussi le mot pour guérir qui est en grec therapoiein, qui veut dire apporter une thérapie. Jésus, le thérapeute. Le thérapeute, ce n'est pas juste celui qui fait le miracle et la personne est guérie, mais il accompagne la personne dans sa souffrance. Il y a un accompagnement durable. Et je peux vous dire, dans ma vie, le Seigneur m'a accompagné durant mes phases de blessures, durant mes phases de souffrance émotionnelle, de mes déceptions. Et je le remercie parce qu'il est vraiment le thérapeute aussi pour nous. Amen. Après, pour ce qui est des obsessions, des addictions, je dirais qu'il faut encore un autre accès. On a vu qu'avec les obsessions, une personne qui est alcoolique, par exemple, ou boulimique, il faut qu'elle fasse aussi un travail dans son comportement. Le comportemental et le stratégique est très important aussi. Et la Bible nous le montre, elle nous le dit. Éphésiens 4, verset 27 dit, on peut traduire ce verset aussi, ne donnez pas l'occasion au diable de vous dominer. C'est-à-dire, soyez stratégiques. Faites de sorte de ne pas tomber dans les filets du mal. ou du malin. Vaincre le mal par le bien, ce sont des stratégies. Une personne, voilà, qui est addict, ça ne sert à rien, je dirais, ou ça sert partiellement, si on étudie avec elle la composition chimique du cannabis, par exemple. Tu peux étudier ça, c'est très intéressant. Tu peux dire, est-ce que c'est vraiment si grave le cannabis? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Mais ça ne t'avance en rien par rapport à la délivrance. Il faut à un moment donné faire un travail et entrer dans le processus de guérison et aussi, Seigneur travaille avec nous. Il collabore avec nous. Une personne qui ne veut pas, ne peut pas arrêter ou ne peut pas être libérée. C'est important. Possession démoniaque, on a vu, ben là, c'est clair aussi, le Seigneur, il ne discutait pas avec les démons, il les chassait tout simplement. Jésus menaça le démon qui sortit du garçon et celui-ci fut guéri à l'heure même. Il y a des guérisons, des libérations instantanées. Alléluia, on en a vu. Mais, comme je vous ai dit aussi, il y a ces ordures des fois qui font que les rats, les démons reviennent. Là, il faut travailler autrement aussi. Voilà. Un peu pour l'introduction. Ouf. Maintenant, la prédication, elle viendra, elle dure encore 5 minutes. Non, c'est vrai, c'était une introduction assez gonflée. C'est un bloc. Mais je crois que c'est important de visualiser les choses et de comprendre de comment le Seigneur il nous a fait aussi et comment il peut nous délivrer. Mais mon désir, c'est de vous... Je pense que je prendrai 10 minutes, si ça vous va. C'est possible. De vous montrer à travers une histoire biblique le Dieu médecin. Nous allons voir et découvrir le Dieu médecin. C'est tellement important de le montrer. J'ai lu avec beaucoup de gain ce livre-là de Daniel Bourgueil, Les maladies de la vie spirituelle. Je peux le recommander parce qu'il montre là-dedans aussi comment notre théologie occidentale, c'est-à-dire à partir de l'Église catholique romaine et de toute cette théologie catholique, mais aussi protestante, nous a présenté et on a prêché encore et encore le Dieu juge. Le Dieu juge, je suis sûr, il est très présent dans nos vies et dans nos pensées et nous le connaissons. On nous a prêché cela. Mais il parle ici des pères grecs, c'est-à-dire de l'Église orientale, l'Église orthodoxe, si vous voulez. Et il dit, l'approche du Dieu médecin a particulièrement été retenue par les pères grecs, alors que les pères latins l'ont petit à petit délaissée pour privilégier celle de Dieu juge. Cette dérive occidentale est telle que nous avons de nos jours toutes les peines à retrouver la révélation biblique du Dieu médecin. Et je me fais un plaisir en ce moment de développer cela avec l'Église, dans les études, mais surtout aussi pour mon propre gain personnel, pour guérir, de comprendre mais comment Dieu travaille avec nous. Voilà. Je voudrais lire maintenant avec vous ce texte. Caïn et Abel, vous connaissez cette histoire. Mais on va découvrir peut-être des choses. Oh, il y a beaucoup de quatre. Je ne sais pas. Je ne comprends pas, mais bon, voilà. Il y a des mystères dans l'informatique. C'est Genèse 4. Si vous voulez lire dans vos Bibles, c'est Genèse 4 à partir du verset 3. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta les fruits du sol comme offrande à l'Éternel. Abel, lui aussi, apporta des premiers-nés de son bétail avec leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn ni sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ? Si tu agis bien, tu relèveras la tête, mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, et comme ils étaient dans les champs, Caïn se dressa contre son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère, moi ?» Alors Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie jusqu'au sol vers moi. Maintenant, crie du sol jusqu'à moi, pardon. Maintenant, tu seras maudit loin du sol qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse, tu seras errant et tremblant sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, le poids de ma faute est trop grand pour être porté. Tu me chasses aujourd'hui loin du sol arable. Je devrais me cacher loin de ta face, je serai errant et tremblant sur la terre. Si quelqu'un me trouve, il me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tue Caïn, on le vengera sept fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que ceux qui le trouveraient ne le frappent pas. Dans ce texte, je vous prie de regarder de quelle manière Dieu va vers Caïn. Dieu approche Caïn. Tel un médecin d'une grande bienveillance, du début jusqu'à la fin, son désir n'est pas de le juger, mais de le guérir. Et permettez-moi de dire quelque chose par rapport au Dieu juge et au Dieu médecin. Je sais que Dieu est aussi notre juge, et vous le savez, mais comme je viens de le dire tout à l'heure, nous avons parfois été excessifs à présenter le Dieu juge. Le Dieu juge, à quel moment est-ce qu'il entrera en fonction? Est-ce qu'il nous juge aujourd'hui pour tout ce que nous pourrions faire de bien ou de mal? Non, le Dieu juge, il entrera en fonction au bout du compte, lorsque nous serons tous vivants et morts devant lui. Mais aussi longtemps que tu es sur cette terre, Dieu veut être ton médecin. Il ne veut pas être ton juge maintenant. Il veut te guérir. Il veut t'éviter la souffrance et il veut t'éviter les faux détours. Amen. Alors là, nous voyons justement le Dieu médecin qui va vers Caïn et il lui dit « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu, Caïn ? Pourquoi ?» Comment est-ce qu'on pourrait qualifier cette approche ? Dieu cherche son enfant Caïn. Il lui donne l'opportunité. Pardon ? Voilà. Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi? Il lui donne l'opportunité de s'ouvrir, de dire ce qui ne va pas en lui. Dieu voit qu'il se sent blessé, rétrogradé. Il voit son émotion vive. Son visage est abattu, de sombres pensées se forment dans le cœur de Caïn. Et Dieu, il s'approche. Il n'est pas loin quand tu souffres. Il n'est pas indifférent. Son intention est de rétablir le contact. Rien n'est encore perdu à ce stade-là. Mais Caïn ne répond pas. Le texte, on ne trouve pas de réponse, pas de mots. Il laisse passer l'opportunité. Alors Dieu reprend encore une fois le fil. Et cette fois-ci, il va lui dire, le péché est tapis à ta porte. Littéralement traduit, il faudrait dire il est couché tel un animal à ta porte. C'est ça la traduction littérale de être tapis ou être couché à ta porte. Oui, être à ta porte, le péché à ta porte. Cette fois-ci, tel un médecin bienveillant, Dieu l'avertit. Il dit, attention, Caïn, tu cours un risque. Rien n'est encore arrivé. On peut encore éviter l'hospitalisation ou on peut encore éviter que tu ailles au bloc opératoire pour des cas graves. On peut encore éviter cela. Mais pour cela, fais attention. Voyez, le médecin, comment il, quand nous sommes en consultation, il peut dire à une personne qui court un risque, si maintenant vous changez, votre prognostic est positif. Mais il dit, n'ouvre pas cette porte. Un animal couché devant ta porte, quel animal peut être couché devant la porte? C'est quoi ce type d'image ou de... Un animal sauvage, tel un loup peut-être, ou un serpent qui va nous surprendre. Tu ouvres la porte et il rentre et il... On s'imagine la suite. Est-ce que tu vas dire au péché, au mal, rentrez seulement, bienvenue à la maison, je vous ouvre la porte. Non, je crois que là, vraiment, Dieu, le médecin, il t'avertit aussi. Le péché est tapis à ta porte. N'ouvre pas. J'aimerais vous faire écouter une chanson. Chanteur connu, chanteur français. On va écouter un peu là-dedans, si on peut. On ne va pas écouter toute la chanson parce que c'est aussi pour le temps, mais j'aime bien ces paroles parce que ça parle un peu de cette intention du Dieu médecin, de cette approche en fait.
Dis-moi, pourquoi t'es comme ça? Pourquoi ça va pas? Pourquoi t'essayes pas? Pourquoi tu veux pas? Dis-moi, pourquoi tu souris? Et pourquoi tu pleures? Pourquoi t'as envie? Pourquoi t'as peur? Dis-moi, pourquoi tu dis ça? Pourquoi t'y crois pas? Pourquoi t'y crois plus? Pourquoi tu sais plus? Tu vois, tu retrouves plus ta rue, t'as paumé l'état, crois bien que t'es perdu, tu marches pas, tu nages. Et là tu crois que je vais rester sans rien dire. Ah oui, tu crois que je vais rester planté là, à te voir partir dans tes délires et te laisser faire n'importe quoi.
Voilà. Je ne savais pas que Florent Pagny était un prophète, mais là il dit des choses qui sont vraies. Hein. Pourquoi tu fais ça? Et on revient à notre Dieu qui est un Dieu médecin qui dit pourquoi ton visage est-il abattu? Et voilà, Caïn ne répond toujours pas. Caïn ne donne toujours pas signe de vie par rapport à ce que Dieu lui propose. Et le mal prend son cours. Caïn reste sur sa blessure première, c'est-à-dire qu'ils se sentaient rétrogradés, qu'ils se sentaient mal considérés, etc. Et ici, le mal prend la forme d'un meurtre. Et Dieu, où est ton frère Abel? Là encore, il ne vient pas comme un juge, vous remarquez. Il ne vient pas, tu as tué Abel, tu vas payer pour ça. Sanction. Il vient comme un médecin. Où est ton frère Abel? Tu peux encore me parler, je vois ta souffrance, je vois que quelque chose ne va pas là. Maintenant, Caïn, il a un gros souci. Il porte un lourd paquet dans son âme. Et Dieu s'approche, s'occupe de lui tel un médecin. On peut remarquer encore qu'il cherche à le guérir ici. Mais c'est une réponse rebelle qu'il donne. Suis-je le gardien de mon frère? J'en ai rien à faire. Fichez-moi la paix. J'aime bien aussi dans cette chanson de Florent Pagny. Oui, je pense que tous ceux qui sont mères ou pères peuvent s'y reconnaître, parce que parfois tu dis, est-ce que tu crois vraiment que je vais te laisser courir dans ce délire-là? Est-ce que tu crois que je vais te laisser faire? Non, parce que je t'aime, je ne vais pas te laisser faire ça. Et parfois je dis à mes enfants, tu rentreras avant minuit. La liberté, ce n'est pas tout ce que tu veux faire à l'instant qui est permis et qui est bon pour toi. Bon, ceux qui ont des ados savent, c'est, voilà, tout se négocie, mais on est quand même concerné, on essaye, oui, d'être dans une approche de guérison et de protection. Et puis là, après coup, voilà, Dieu lui dit quand même, tu sais, je suis au courant, je l'ai vu. Le frère, le sang de ton frère crie dans mes oreilles. Et là, ça craque dans la... Le poids de ma faute, il dit. Le poids de ma faute est trop grande. Est trop grand pour être supporté. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que ceux qui le trouveraient ne le frappent pas. Donc voilà, il craque tout le poids, son péché, sa souffrance, ses angoisses, tout cela sort. Il dit, ses angoisses, si quelqu'un me trouve, il va me venger, je serai une proie pour tout le monde. Et Dieu, là encore, se penche sur lui, sur le meurtrier qu'il est. Il ne le juge toujours pas, il le laisse vivre. Et ça, je trouve extraordinaire quand même, dans notre Dieu, qui ne nous juge pas selon nos fautes ou selon nos péchés, mais il s'approche de nous pour nous donner l'opportunité de changer et de guérir. Dieu le médecin, il met un signe sur lui. Pouvez-vous imaginer vous-même quelle sorte de signe ça pouvait être, mais probablement, voilà, un signe visible sur son corps, sur son front peut-être. J'aimerais te dire ce matin, n'attends pas aussi longtemps que Caïn. Sa souffrance pourquoi attendre aussi longtemps? Il veut que tu sois libéré de ton passé, aussi lourd qu'il soit, aussi lointain qu'il soit, aussi récent qu'il soit. Mais j'aimerais te montrer à travers cette histoire que la main de Dieu est étendue. Tu peux la saisir par la foi, tu peux crier et prier. Jésus dit, je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. Et j'aimerais t'inviter à une démarche concrète. Si tu t'es reconnu peut-être quand même blessé dans cette vie, et qui n'a pas été blessé, de prier avec moi, de déposer peut-être cette blessure ici et maintenant devant le Seigneur pour qu'elle ne puisse pas s'infecter ou s'aggraver ou devenir une cause pour d'autres souffrances que nous pourrions causer à d'autres personnes autour de nous. Venons au Seigneur, et je suis sûr aussi, je le dis vraiment avec une conviction, que dans l'Église, il y a des personnes compétentes qui peuvent aussi t'accompagner, qui peuvent être ces thérapeutes. pour d'autres, pour que tu puisses faire ce chemin de la guérison. Il y a des choses qui ne se font pas en un jour ni en deux. Ne t'inquiète pas. Le Seigneur a le temps, il t'accorde aussi ce temps que tu as besoin pour guérir et pour retrouver la pleine santé spirituelle et physique aussi. Je prie. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour le médecin que tu es. Merci parce que tu te révèles de cette manière en Jésus-Christ, mais dès la première page de la Bible déjà. Je te remercie parce que tu ne nous reproches pas notre passé sans fin et tu ne désires pas nous juger, mais tu désires notre guérison. J'aimerais t'apporter chacune des personnes ici présentes parce que tu connais notre histoire, tu connais notre passé, notre présent et notre futur et nous avons envie, Seigneur, de venir devant toi. Devant un juge, nous voulons cacher ce qui ne va pas, mais devant le médecin, nous pouvons l'exposer. C'est ce que je te prie de faire, mon frère, ma sœur ici. Expose ta souffrance, ta blessure au Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus, j'aimerais te demander, interviens et guéris. Enlève, Seigneur, ce blocage ou cette tristesse, ce deuil, Seigneur. Aussi les dépressions, Seigneur, qui sont un grand fléau, où beaucoup de personnes prennent des médicaments à cause de cela. Je te prie, Seigneur, de délivrer des personnes de dépression. Les insomnies, toutes ces blessures graves, Seigneur, aussi ces traumatismes qu'on a vus. Les personnes qui ont subi un viol, Seigneur, viens les consoler. Les personnes qui ont subi un abus de pouvoir, Seigneur, viens les guérir par rapport à cela et montre-leur que toi, tu es un Dieu Père, un Dieu qui guérit l'âme et qui donne un nouveau départ aussi dans des relations difficiles. Je te prie de bénir aussi les couples, les mariages, Seigneur, parce qu'on est souvent blessé dans les mariages. Beaucoup de personnes, Seigneur, sont au stand-by par rapport au mariage, Seigneur. Je te demande de guérir et de bénir, Seigneur, aussi ces mariages. Dans le nom de Jésus. Amen. Oui, amen. J'ai fini.